7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la vie quotidienne en Corée du Nord. Dans ce pays le plus fermé au monde extérieur de 25 millions d'habitants, un nouveau documentaire a filmé des images ordinaires de ce pays singulier. Loin de la géopolitique, des essais nucléaires, à quoi ressemble une ferme? Comment travaillent les Coréens? Comment cultivent-ils la terre? Que font-ils le week-end à Pyongyang, la capitale? Comment se négocient les logements dans un pays sans réelle propriété privée? Qu'y a-t-il dans les programmes scolaires? Et surtout, comment peut-on rire en faisant des selfies dans un pays où, a priori, toute pensée libre et individuelle est condamnable? Du moins, c'est l'image que nous en avons. Alors, quant à vous, les voisins et les voisines, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur notre téléphone WhatsApp 33 1 84 22 71 71. Pour répondre à ces questions, mes invités, Patrick Morus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de langue et de littérature coréenne à l'INALCO. Vous accompagné de nombreux visiteurs occidentaux en Corée du Nord. Et pendant que vous parlez, pendant que nous parlons, Pierre-Olivier François, votre collègue de route, compagnon de route, vous filme en selfie sur les habitudes coréennes bien ancrées. Pierre-Olivier François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, journaliste et vous avez réalisé tous les deux ce documentaire, Pyongyang s'amuse, qui a été diffusé sur Arte, qui est d'ailleurs toujours disponible gratuitement sur le site Arte Vidéo. Vous préparez d'ailleurs d'autres films et bien sûr nous allons vous poser toutes les questions auxquelles vous ne pouvez pas forcément répondre dans le documentaire. Vous avez réalisé près de 40 voyages à vous deux avec le caméraman, d'ailleurs à trois. Vous avez filmé sur 8 ans les évolutions de cette société, car oui, la vie en Corée du Nord qui semble figée pour l'éternité évolue pourtant. Pas forcément à la vitesse des réseaux sociaux, quoique. Hein. On sera également en ligne avec Frédéric Ojardias, correspondant à Séoul, qui nous racontera son expérience en Corée du Nord, où il a vécu, et il nous dira comment leur mode de vie est perçu ou fantasmé par les voisins, les Coréens du Sud. Il y a dans votre documentaire certaines scènes déroutantes, alors on va en parler bien sûr, mais il y a juste quand même en introduction, j'aurais aimé que vous nous commentiez cette scène où il y a le portrait des deux leaders Kim Jong-un il et Kim Jong-un, avec un ventilateur devant le portrait pour qu'ils aient pas trop chaud, Patrick Morus.
Oui, je reconnais que ça doit surprendre un petit peu. On a été surpris nous-mêmes, mais comme la scène s'est répétée, nous savions qu'il y avait là quelque chose qui avait du sens. Ce n'était pas un exemple tiré de je ne sais où et auquel nous, on aurait donné du sens.
Vous avez vu dans plusieurs endroits ces portraits
absolument.
Avec des ventilateurs
absolument,
devant.
Oui. Absolument.
Tout à fait.
En signe d'immense respect, en signe de quoi?
En signe, peut-être qu'ils ne sont pas morts tels que nous l'entendons. Je sais pas, j'ai pas l'explication. Ça fait partie d'une séquence où justement on essaye d'expliquer notre perplexité face à cette omniprésence des portraits des deux leaders décédés. Hein, ça vaut pas pour le leader actuel.
Ce portrait-là, il y a
Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, et son fils Kim Jong-il, les deux étant décédés.
C'est ça, et non pas Kim Jong-un.
À notre sens.
Qui est bien vivant, oui. Je me souvenais plus
qui est bien vivant et extraordinairement peu représenté. En tout cas, en panneau, en statut, rien, rien, rien. Ce qui est une marque politique, c'est-à-dire l'absence, c'est une présence très très forte.
Donc, en revanche, le ventilateur, c'est pour les
deux
décédés.
À la télé, en photo, c'est pour les deux décédés, auxquels ça donne aussi le sens, mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Olivier, bien évidemment, ça donne aussi le sens des fondements de légitimité du Kim actuel. Surtout à un moment où il remet complètement en cause, mais vraiment complètement en cause, les principes politiques, au moins du premier Kim, Kim Il-sung. Et plus il remet en cause les fondements de ce pays, plus il donne des signes extérieurs de continuité.
Alors, les leaders vivants ou décédés sont très présent dans la vie quotidienne des Coréens du Nord, on va en discuter, très présent, et en même temps vous filmez une vie quotidienne relativement ordinaire. Bienvenue en République démocratique de Corée. des défilés militaires, évidemment, vous en avez filmé. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de filmer les répétitions des défilés militaires. En gros, qu'est-ce qu'on peut filmer, qu'est-ce qu'on ne peut pas filmer aujourd'hui en Corée du Nord, Patrick Maurus et Pierre-Olivier François ?
Là, ça va être un débat entier. On ne peut pas faire une colonne, on peut pas. On peut faire une colonne aujourd'hui, maintenant, à l'instant I. Ça, je peux parce qu'on me laisse faire. Mais je suis pas sûr. Je sais que l'année d'avant, je pouvais pas le faire. Et l'année prochaine, bon, ça s'ouvre un petit peu, pas mal. Mmh. Mais c'est pas absolument certain. La base n'est pas une liste de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut pas faire. D'abord, il faut répondre à la question. À qui ai-je posé la question? Et est-ce quelqu'un qui peut répondre oui? Parce que l'autre va répondre non, mais ça ne veut pas dire non. Ça veut dire que ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Et puis aussi, il y a... Le temps fait beaucoup à l'affaire. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il nous a fallu 8 ans, oui, en gros, depuis les balbutiements jusqu'à la réalisation du film. C'est certainement ça l'élément fondamental. Vous mettez une autre équipe au même moment, au même endroit, ils n'auraient pas pu prendre ce genre d'image. On n'est pas supérieur à qui que ce soit, on est simplement plus patient. Et puis on a surtout montré pas de blanche.
Donc là, vous faites comme les Coréens, vous répondez pas à la question que je vous ai posée finalement.
Si, parce que maintenant...
Aujourd'hui, vous pouvez pas nous dire ça, on ne peut toujours pas le filmer.
Je peux vous répondre à ce qu'on a fait. Ce qu'on peut faire, c'est la liste de ce qu'on a fait. Parce que franchement, on a poussé des portes très loin. Ensuite, il y a des règles élémentaires. Par exemple, pas de militaires, pas de policiers. Bon, il n'y en a pas. Et surtout, cette règle extrêmement étrange qu'on évoque dans le film, rien en cours. Rien qui soit en travail, en construction. Tout doit être terminé, nickel, pour que le responsable soit sûr de ce qu'on va montrer. Et c'est aberrant de notre point de vue, parce que ça gomme tout ce qui est travail ahurissant que ce peuple réussit à accomplir. Je veux dire, ça, il scie la branche de propagande sur laquelle ils sont. Je veux dire, en tant que propagandiste, il n'y a pas plus nul qu'un Nord-Coréen.
Mais alors, qu'est-ce que vous vouliez montrer et surtout faire comprendre aux Occidentaux dans ce documentaire, Pierre-Olivier François ?
C'est assez simple. On y a été plusieurs fois, Patrick plus que moi, sur des périodes assez longues et depuis assez longtemps. Et l'idée nous est venue pendant une énième crise nucléaire de faire ce film. Et avec Patrick, on s'est dit qu'on aimerait bien faire un film une fois aussi qui montre l'ambiance qu'on rencontre aussi en Corée du Nord, mais qu'on ne voit très rarement dans les médias occidentaux. Parce que une crise nucléaire où le monde occidental se sent menacé fait que ça ne s'y prête pas de montrer du hors-champ. En plus, on vient de vous expliquer que ce n'est pas facile de filmer ce qui se passe à côté au quotidien. C'est-à-dire que les militaires, on n'a pas le droit de les filmer, mais les spectacles, c'est plutôt quand ils sont finis, et dans ce cas-là, ils sont peut-être moins intéressants pour nous. Et puis après, toutes sortes de petites choses quotidiennes, il faut les glaner petit à petit pour pouvoir construire un récit complet qui donne à comprendre aussi pourquoi ce pays continue d'exister. Moi, la première fois que je suis allé en Corée du Sud, c'était en 2000. La première fois que j'étais en Corée du Nord, c'était en 2003. Et depuis, régulièrement, j'ai eu toutes sortes de gens qui m'ont dit « ce pays, de toute façon, est sur le point de s'effondrer ». Alors, ça n'a pas eu lieu, ça peut arriver demain, mais jusqu'ici, ça n'a pas eu lieu, donc il semble qu'il y ait en tout cas une forme de stabilité. Alors, un pays qui se sent menacé par le monde entier serre les rangs, serre les coudes, et ça tient. Mais ce n'est pas la seule chose. C'est-à-dire qu'un régime, même le plus autoritaire qu'il soit, ne fonctionne pas pendant 70 ans que sur la terreur et la répression. Donc, il se trouve que les Coréens du Nord, ils ont des week-ends, ils ont des enfants, ils ont des mariages, ils ont des moments de sport, ils ont des moments de divertissement. Et en plus, ça raconte plein de choses sur ce pays, sur ce peuple, et peut-être aussi sur à quel point il peut être encore plus surprenant que ce qu'on croit.
Oui, notamment par rapport évidemment au cliché de l'Occident, mais montrer que les Coréens du Nord vivent totalement normalement, alors qu'on sait par exemple là par l'ONU qu'il y a 10 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire, même s'il n'y a plus de famine, mais la récolte a été mauvaise l'année dernière. On est dans un pays rural à 80%. Est-ce que montrer que les Coréens du Nord vivent normalement, que comme vous le dites, ils s'amusent, ils vont à la piscine, etc., est-ce que c'est pas rentré pile dans un programme de propagande?
Ma seule réponse est non. parce que je ne vois pas pourquoi la question se poserait. Pourquoi est-ce que ce serait le seul pays au monde et nous serions les deux seuls
crétins,
truchement, débiles mentaux, à nous laisser entuber par ces vicieux de Nord-Coréens. Maintenant, on est trois, hein, y a Trump aussi. Excusez-nous. Franchement, moi j'aimerais bien que, quand on interroge notre légitimité, et je ne réponds pas à mes légitimités, apprenez le coréen pendant 50 ans et allez 40 fois en Corée du Nord, on discutera après. C'est ce que je réponds en général. Mais on continue à nous interroger là-dessus. Nous, on s'est posé une question qui était très simple, et je paraphrase ce que vient de dire Pierre-Olivier. Pendant la grande crise nucléaire, évidemment, on nous disait à chaque fois, vous êtes des suppôts de la Corée du Nord, vous allez leur donner 4 euros, vous participez au lancement du nucléaire. C'était absolument impossible d'en parler, parce qu'il fallait dire évidemment que la Corée du Nord menaçait gravement la paix mondiale et avait au moins 50 porte-avions et 5000 têtes nucléaires. Il faut le croire, j'imagine, puisque les Américains avaient peur. Nous, dans la rue, on dit toujours dans la rue, ce qui est une idiotie totale. Les Coréens qu'on voyait étaient absolument pas paniqués, se marraient et pleuraient de joie à l'idée qu'ils avaient enfin la bombe et qu'ils avaient, pardonnez-moi l'expression, entubé les Américains. Ce qui fait qu'après, vous voyez dans le film, des fusées avec des pseudos, pas forcément des têtes nucléaires, dans les bibliothèques, dans les bowlings, et partout dans le pays, vous avez des grands panneaux qui met « Rocket Nara », le pays de la fusée. Bon. Est-ce qu'on va soutenir ça? Est-ce qu'on va pas soutenir ça? Moi, je suis à cheval entre les deux Corées, entre les trois Corées. J'ai un enfant coréen, et j'aimerais bien que ça s'arrête. Et que d'autres personnes à côté cessent de venir jeter de l'huile sur le feu. Et je dois dire que de ce côté-là, les médias sont loin d'avoir les mains propres.
En tout cas, vous montrez des images tout à fait étonnantes, hein, de cette vie quotidienne en Corée du Nord. Pyongyang s'amuse quand les Coréens du Nord découvrent les joies de la piscine à vagues dans un parc aquatique de la capitale.
Je suis venu avec tout mon groupe, mais j'ai perdu mes collègues dans la piscine. Je suis mineur au grand complexe de mines de charbon, à une heure de Pyongyang. Je ne peux pas venir souvent à cause du travail. Je profite de la visite au mausolée des grands leaders pour venir. J'aime bien venir à Pyongyang pour me détendre. Après s'être bien amusé comme ça, on pourra mieux travailler. Tout le monde me regarde. Allez jouer. Nous n'avons jamais été à l'étranger. Mais maintenant, il y a beaucoup de parcs aquatiques, même chez nous, dans notre comté et dans notre province, au nord de Pyongyang. On va devenir les meilleurs du monde, avec nos propres forces. Vous avez d'autres questions? On est les meilleurs.
Comment vous êtes parvenu à interviewer quelques personnes? Bien sûr, c'est un documentaire où il y a beaucoup plus d'images et de commentaires que de personnes qui s'expriment, que d'entretien. Ce n'est pas un documentaire d'entretien. Néanmoins, comment vous avez fait, Pierre-Olivier François?
Écoutez, quand on m'a demandé au début à Arte comment j'allais faire ce film, j'ai dit « ne comptez pas sur les interviews ». C'est très difficile pour les Coréens du Nord de répondre tel qu'ils le souhaitent, c'est très difficile pour nous de poser toutes les questions qu'on voudrait, donc ne comptez pas là-dessus, parce que sinon on va se heurter. Et il se trouve que ça a été le cas pendant assez longtemps, jusqu'au dernier voyage, jusqu'en l'été dernier, où, parce que pour des raisons, je pense, qui sont très liées à la conjoncture internationale, c'est-à-dire à la détente qu'il y a avec la Corée du Sud et en partie avec les États-Unis, qui font qu'à l'intérieur, ça se détend aussi. Il a été possible pour nous, pour ce tournage, d'interviewer après qui on voulait. Alors, interviewer un Coréen du Nord...
Avec un accompagnateur?
Toujours. Mais on a des accompagnateurs du matin au soir. C'est-à-dire, c'est donné en Corée du Nord. Ce n'est pas un scoop. Ce sera toujours pareil pour tout le monde, sauf si vous êtes undercover sud-coréen. Et encore, je pense que ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est une donnée de travail de base. C'est faux. Mais donc, les gens, ça, ne parlent en public, toujours. On ne fait pas dans l'intime. Et puis, de toute façon, eux, ils vont rester nous, on va repartir. Donc, ils sont pas là pour critiquer leur régime. Hein.
Ça veut dire que ces personnes acceptent de vous parler, alors sur des sujets totalement anodins, hein, les joies de la piscine, hein, le week-end, mais le fait que vous soyez accompagné, ça veut dire aussi que ça leur donne un feu vert. Comment savent-ils qu'ils peuvent s'exprimer ?
Ça, je sais pas, Patrick. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que même si c'est des sujets anodins, ce qu'on en ressort est beaucoup plus intéressant que juste le petit plaisir d'aller à la piscine.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on n'aurait pas fait la plupart de ces interviews. On aurait discuté avec eux, mais ça n'aurait pas été enregistré. Faut être bien précis sur les accompagnateurs. D'abord, d'une part, les gens qui vivent à Pyongyang n'ont pas d'accompagnateurs, ou plus exactement, c'est eux qui le demandent.
Parce que c'est... Vous parlez des étrangers qui vivent à Pyongyang.
Oui, parce qu'il y a un problème de langue absolument élémentaire. J'ai déjà vu des pseudo-coranologues de français allant en Corée du Nord pour interpréter et incapables de le faire parce que ça ne ressemblait pas aux Coréens du Sud.
L'accent est très fort.
Peut-être exagéré un peu.
Non, mais quand vous disiez...
Nos accompagnateurs, nous ont, dans la moitié des cas, ouvert les portes. C'est-à-dire que c'est eux qui allaient voir les Coréens qui les intéressaient en leur disant « Avec ce groupe-là, vous pouvez y aller, ils sont francs du collier ». Et dans d'autres cas, on a eu des petits accrochages.
Il est arrivé plein de fois qu'il y a
des petites crises.
Qu'il y a eu des psychodrames. Mais,
ça ressemble à quoi un psychodrame en Corée du Nord
Mais c'est des psychodrames qui sont parfois... dans d'autres voyages, il y avait eu des moments où je voulais interviewer des gens et c'était absolument pas possible. Et après, on tentait et on s'engueulait pendant 2 jours. Voilà, enfin, c'est... Il ne faut pas croire que ce film, sous prétexte qu'il montre des choses apparemment anodines, est facile à faire. Énormément de choses sont très, très, très compliquées à avoir. Il y a beaucoup de scènes dont j'ai rêvé pendant très longtemps de les avoir, parce que je savais qu'elles existaient, parce que je voyais plein de touristes autres qui allaient les voir et que nous, on n'avait pas le droit de les filmer. Ouais. Et je ne comprenais pas. Pourquoi ?
Alors,
je n'ai pas de choix à répondre.
Comme vous le disiez, ce n'est pas si anodin que ça de filmer des Coréens du Nord à la piscine, parce que, vous l'expliquez dans le documentaire, Patrick Morus, pendant longtemps, le concept de temps libre n'existait pas réellement en Corée du Nord.
Oui, totalement. D'abord, il faut considérer que c'est le temps libre, le temps de non-travail, si on veut, ou de non-vie quotidienne pour faire les courses. C'était totalement organisé comme le reste. C'est-à-dire que c'était un temps libre, c'était un temps de non-travail. Et encore, ce temps lui-même était organisé, puisqu'il y avait souvent les cours du parti, le samedi socialiste, le travail supplémentaire, l'absence de vacances, etc. Donc la partie de temps libre était extrêmement réduite. Alors, dans ce que nous appellerions le temps libre, c'était aussi organisé, mais alors au sens collectif du terme, ça existerait tout autant au Sud ou en Chine, voire au Japon. C'est-à-dire que les activités de loisirs individuels, pas un truc très 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 développé, puisque même quand on joue aux échecs, on va dans le square d'à côté où tous les vieux se réunissent pour jouer aux échecs. Et on va regarder les autres, même les jeunes. Il n'est pas question de faire ça tout seul. À midi, pendant la pause à l'usine, on intègre nécessairement, mais on ne se pose pas la question, c'est comme ça, une équipe de volleyball. Et si on n'est pas prêt, on va chercher 2 serveuses à l'hôtel ou un truc à côté qui vont venir et qui viennent jouer en haut talon parce qu'elles n'étaient pas prévues pour jouer. Donc c'est un esprit qui est totalement différent. De là à pouvoir le montrer, c'est vrai, Pierre-Olivier a totalement raison, ça nous a pris du temps et, comment dire, les gens qui nous servaient d'intermédiaires ou d'intercesseurs ne voulaient pas qu'on le fasse. Parce que c'était pas prévu, ils avaient pas ça en magasin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et ils répondaient à notre place, ça va, c'est pas net. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prendre l'usine de machines-outils, qui est la grande réalisation du pays? Pourquoi ils ne veulent pas prendre le défilé militaire? Ça, c'est une grande réalisation de notre pays.
Ce qui veut dire que quand vous filmez ce que vous appelez le Central Park coréen, qui est le plus grand parc de Pyongyang, où on danse, c'est le samedi, le dimanche, on écoute de la musique, on chante beaucoup, de toute façon, dans votre documentaire. Oui. Hein. Là, c'est ce qu'on pourrait appeler passer du bon temps, cette espèce de temps mort qui s'étire. C'est assez nouveau, c'est assez incongru.
C'est ce qui existe depuis le plus longtemps, à cet endroit-là. La campagne, ils le font très souvent. On le voit aussi dans le film, il y a aussi des groupes de chanteurs, de chanteuses, généralement, et de musiciens, de musiciennes, qui accompagnent les travaux des chants. Là, à Moranbong, moi, j'ai toujours connu la foule des week-ends là. Il est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est totalement détendu. Le samedi est devenu libre. On a vraiment du temps libre. Et ce ne sont plus simplement les vieux. Bon, allez, ils sont sortis de la vie sociale, comme au Sud, hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, il n'y a plus de poids moral ni politique sur vous. Vous avez passé 60 ans ou 65 ans, faites ce que vous voulez.
Pyongyang, c'est la capitale de la Corée du Nord, c'est là où tout le monde rêverait d'habiter.
C'est le centre du monde, surtout quand le monde est réduit au pays, puisqu'il y a peu de gens qui voyagent. Donc, tout est mieux à Pyongyang, il y a plus de tout. Il y a plus de loisirs, il y a plus de nourriture, il y a plus d'éducation, il y a plus... Et d'ailleurs, c'est réservé aux gens qui ont le droit d'habiter à Pyongyang. Donc, soit c'est des descendants de gens qui habitent déjà à Pyongyang, soit des gens qui sont méritants et qui montent. La Corée du Nord, c'est plutôt une pyramide qu'autre chose. Après, on y emmène aussi tous les paysans. Je reviens au gars qu'on a entendu à la piscine. Donc lui, c'est un mineur. Moi, ça m'intéressait de voir... Ça fait partie des grandes... Quand les délégations de la campagne viennent, on leur fait visiter la capitale pour leur montrer à quel point c'est une réussite et à quel point ils ont la chance d'habiter dans ce pays. On leur fait visiter le mausolée, généralement, des leaders, et puis ensuite un certain nombre de monuments qui sont politiquement corrects. Et on termine avec soit le parc d'attractions, soit la piscine. Donc c'est important. Ça veut dire qu'on veut montrer ça comme réussite, comme élément de réussite. Donc ce gars-là, il fait partie de mineurs, il a passé la matinée au mausolée. Il a vu les grands leaders, il a pleuré le matin, comme il fallait, devant les et l'après-midi, il va se marrer avec ses copains, parce qu'il n'y en a quand même pas tant que ça, des piscines, pas en tout cas de cette taille-là. Et il dit sa fierté. Donc ça contribue à construire quelque chose qui est extrêmement fort en Corée du Nord, et qu'on voulait montrer aussi, qui est une forme de nationalisme, qui existe là depuis toujours.
Le privilège d'habiter à Pyongyang, la capitale, ça veut dire quoi concrètement dans l'organisation de l'accès au logement ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des transactions immobilières à Pyongyang ?
Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. C'est habiter à Pyongyang, mais partout dans le pays, parce que c'est la constitution, induit un logement. L'État doit un logement aux travailleurs, quel qu'il soit. Une fois qu'on est dans Pyongyang, mais c'est maintenant devenu valable pour les capitales régionales, comme Kaesong ou comme Namwon, qui se développent, enfin surtout Namwon, quand même assez rapidement comme grand lieu touristique. Une fois qu'on est à l'intérieur, on a une carrière. Alors là, le seul mot sur lequel on ne sera pas d'accord, c'est la fameuse pyramide, parce que c'est la métaphore qui vient en tête dans tous les pays, un petit peu musclés. Comme régime. Moi, je pense plutôt à une série de gratte-ciel côte à côte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les supérieurs et les inférieurs. Ça marche verticalement et de façon autoritaire. Ça, c'est certain. Mais il n'y a pas, à part le grand leader, il ne faut pas croire qu'on monte dans la pyramide et qu'on a un pouvoir sur les autres. On monte dans son parallépipède, mais on n'est rien à côté. C'est-à-dire que si on est quelque chose dans les affaires étrangères, par exemple, on n'est strictement rien dans aucun autre domaine de la société. J'ai vu des grands intellectuels du pays ou des cadres supérieurs, mourir de peur parce qu'une petite préposée au stationnement les avaient engueulés parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Et ils sont sortis de l'endroit, ils avaient perdu 40 cm, ils étaient gris et ils craignaient par-dessus tout que leur unité de travail soit prévenue. Des choses d'infantilisation absolue. Alors une fois que c'est fait, c'est sûr que dans son cheminement, il y a des carrières qui sont développées, qui sont de plus en plus fondées aujourd'hui sur les études qu'on a pu faire avant, les contacts qu'on a à l'étranger et de moins en moins sur les contacts à l'intérieur du parti. Si on avait le temps, je vous expliquerais que le parti n'existe plus sous cette forme de ce qu'on croyait avant. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous bénéficiez d'un certain nombre de promotions, d'accords, de facilité, au premier rang desquels je mettrais moi les voyages à l'étranger, et ce qui ne signifie pas que vous êtes toutes très en haut. Les femmes de ménage dans les hôtels où on passe nous demandent à faire des échanges avec nous et d'échanger de l'argent parce qu'elles ont le droit. Elles sont à Pyongyang, elles ont le droit aux devises étrangères. Mais c'est naturellement, essentiellement, le fait de gens qui sont en haut dans la société, qui reçoivent tous les appartements absolument inouïs et extraordinaires qu'on montre dans le film, dans ces quartiers ultra-modernes, et qui, ce faisant, lâchent leur ancien appartement, et pour une partie d'entre eux, les mettent dans un circuit d'immobilier qu'on va appeler informel encore pour le moment.
Ça veut dire qu'on ne possède pas d'appartement, de logement.
On est propriétaire. propriétaire, si, on est propriétaire
d'un permis.
On est propriétaire du permis de logement, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que quand on reçoit un nouvel appartement, qui est idéalement mieux, par exemple, le top, c'est quand même quand l'ascenseur marche, ce qui n'est pas le cas de toutes les tours, hein, et elles sont hautes. Ben, dans ce cas-là, on va céder le droit sur son ancien appartement et il semblerait que le bénéfice soit inégalement réparti entre l'État et les heureux propriétaires. Ouais. Donc, voilà, les gens se retrouvent avec de l'argent, voire pas mal d'argent. Ouais. Et on ne le voit pas toujours, mais enfin, il y a des choses qu'on n'a pas pu filmer. Par exemple, les magasins de luxe de Pyongyang sont... On a pu y aller, les visiter, on n'a pas le droit de les filmer.
Pourquoi on ne peut pas les filmer ?
Parce que, vous savez, comme vous savez, il y a des sanctions qui sont imposées assez largement sur la Corée du Nord et que tous les produits qui sont à l'intérieur ne sont pas toutes... Enfin, il semblerait qu'elles ne devraient pas, ils devraient pas tous être là.
Alors, vous restez bien sûr avec nous.
On peut dire ça comme ça.
Voilà. On va en parler, bien sûr, des sanctions, de la conséquence, ouais. Des conséquences des sanctions sur la vie quotidienne des Coréens du Nord, de l'agriculture aussi, parce que le pays rêve d'être autosuffisant et que ça n'est pas simple, puisque je le disais, 10 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire, c'est-à-dire 43% de la population, selon les Nations Unies. Mais d'ailleurs, les campagnes humanitaires sont largement sous-financées. Vous restez avec nous et quant à vous, les voisins, vous pouvez poser toutes vos questions sur la vie en Corée du Nord, 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on sera en ligne de l'autre côté de la frontière, en Corée du Sud, avec notre correspondant Frédéric Ojardias. Il nous dira comment les Coréens du Sud perçoivent les changements au Nord. De voisins, à quoi ressemble la vie en Corée du Nord? C'est le sujet du documentaire Pyongyang s'amuse, réalisé par Patrick Morus, Pierre-Olivier François. Vous êtes avec nous dans le studio. Vous nous disiez pendant la chanson, Patrick Morus, que ce... Alors, c'est pas de la K-pop sud-coréenne, hein, rien à voir ce qu'on vient d'entendre, mais il y a quelques années, ça aurait été impensable ce type de musique.
Totalement impensable. D'abord parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas seulement uniquement la musique militaire, mais il y avait aussi la famine et bon, donc on s'amusait pas à faire des soirées gays à la télévision. Gays au sens amusante. Sauf erreur, c'est un très vieux groupe qui a été reconstitué. Il me semble que c'est en 2012 que les groupes féminins militaires sont arrivés, mais avec des instruments électrifiés, des musiques jazzy et des mini-jupes mini. Ça a eu un certain succès, voire un succès certain, dans le public de la masculin de la télévision. Et on les voit absolument partout. On ne peut pas passer dans un restaurant, dans une gare ou quoi que ce soit, sans que ce groupe se présente à la télévision. Et ça a été le signe de comment dire, c'est un petit peu la musique d'accompagnement du régime Kim Jong-un.
Alors on est maintenant en ligne de l'autre côté de la frontière, en Corée du Sud, avec notre correspondant Frédéric Ojardias. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes en direct avec nous de Séoul. Comment ces évolutions discrètes mais importantes de la société nord-coréenne sont-elles perçues par les Coréens du Sud? Est-ce qu'elles sont même connues?
Alors, la réponse va vous surprendre, mais en fait, la majorité des Sud-Coréens montrent peu d'intérêt pour le quotidien de leurs cousins du Nord. Quand la presse ici parle de Corée du Nord, c'est toujours pour parler des mêmes choses, nucléaire, politique, économie, droits de l'homme. Pour vous donner un exemple très concret, en ce moment est organisée à Séoul une exposition qui est vraiment exceptionnelle. Elle montre des objets de la vie quotidienne au Nord, des bandes dessinées, des paquets de cigarettes, des jouets, des boîtes de conserve. Alors, exposer ces objets à Séoul, ça aurait été impossible avant la détente initiée l'année dernière, parce qu'au Sud, tout ce qui vient du Nord, c'est contrôlé très près, c'est souvent interdit. L'expo, elle est donc vraiment passionnante, et pourtant, quand je l'ai visitée, eh bien, j'étais frappé par le nombre très réduit de visiteurs.
Et comment vous expliquez ce relatif manque d'intérêt ?
Alors, il y a sans doute plusieurs raisons. Les générations les plus âgées ont été éduquées dès leur enfance à voir dans la Corée du Nord communiste hein, l'ennemi. À l'école, les Nord-Coréens étaient représentés comme des diables rouges, vous savez, avec des cornes sur la tête. Puis en s'intéressant de trop près aux Nord-Coréens, à leur société, à leur quotidien, à tout ce qui va en fait à l'encontre de cette diabolisation, eh bien, les Sud-Coréens ont peut-être peur de passer pour des sympathisants du régime. Et pour les plus jeunes générations, alors là c'est un peu différent, 7 décennies ont passé depuis la division du pays et les jeunes Sud-Coréens n'ont plus aucun attachement familial ou nationaliste avec le Nord. Pour la plupart, la Corée du Nord c'est juste un pays qui en plus menace régulièrement de leur faire la guerre. Ceci dit, plusieurs Sud-Coréens s'intéressent quand même à la vie quotidienne au Nord et on le voit notamment à travers le succès de plusieurs émissions télé sur le sujet.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ces émissions ?
Alors la plus célèbre, elle s'appelle Ije Manalo Kamnida, on pourrait traduire ça par « Je vais à ta rencontre ». C'est un talk show où on choisit de jeunes et jolies réfugiées nord-coréennes qui sont invitées à parler de leur vie au Nord. Alors elles parlent bien sûr de leur souffrance, hein, de la malnutrition, l'endoctrinement, le contrôle policier, mais elles abordent aussi des questions beaucoup plus légères comme les produits cosmétiques, les relations amicales, amoureuses, l'école, le visionnage de feuilletons sud-coréens en cachette. Cette émission est un vrai succès, d'autres du même type sont apparues. Alors bien sûr, elles sont avant tout un spectacle, hein, c'est écrit à l'avance, ça cherche à faire pleurer, à faire rire, mais ça permet quand même aux sudistes de mieux comprendre les nordistes.
Et vous-même, Frédéric, vous avez vécu à Pyongyang il y a une dizaine d'années en tant que travailleur humanitaire. Qu'est-ce qui était très différent par rapport à ce que vous savez maintenant ? Vous y êtes retourné d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, je crois.
Alors non, malheureusement, je n'y suis pas retourné, mais je vois quand même, je suis de très près ce qui se passe. Et ce qui me frappe le plus en 10 ans, en fait, c'est l'explosion des téléphones portables. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un seul, et aujourd'hui, à Pyongyang en tout cas, en fait, les Nord-Coréens, ils semblent être aussi accros à leurs smartphones que leurs cousins sud-coréens. Ce qui me surprend aussi, c'est sur les couleurs. Il y a 10 ans, les habits au Nord étaient très uniformes, sombres, gris. Et aujourd'hui, surtout chez les femmes, on voit beaucoup plus de couleurs, souvent très vives. Puis à Pyongyang, bon, on l'a entendu dans l'émission, ont été construits des gratte-ciels, on voit beaucoup plus de voitures, les taxis ont fait leur apparition, ce qui signe à la fois d'une ouverture relative de l'économie, d'un mieux-être économique. Et puis il y a d'autres choses qui, elles, n'ont pas changé. La bonne humeur des Nord-Coréens dans les moments de détente, ce plaisir de chanter, de danser ensemble dans les parcs le dimanche, comme on le voit dans le documentaire Pyongyang s'amuse, tout ça, c'était déjà là il y a 10 ans.
Merci à vous Frédéric Ojardias. Alors concernant les téléphones portables et l'internet, est-ce qu'on peut faire une petite mise au point ? Quel est l'accès à internet et qu'est-ce qui est installé dans les nouveaux modèles des téléphones portables pour le contrôle de ce qui est visionné et de ce qui est recherché par le téléphone, par le régime ?
Ah bah, le téléphone, c'est d'abord un outil de téléphone qui surprendra la plupart des jeunes. Ça se fait pour appeler les gens. Il y a une limite qui est celle de l'indicatif. C'est-à-dire qu'on peut pas appeler n'importe qui. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être déposé par un copain à l'autre bout de Pyongyang et de pas pouvoir le rappeler au retour parce que mon téléphone avait tel indicatif et pas tel autre. Les taxis ont tel indicatif. Sur la plupart des téléphones, on ne peut pas appeler un diplomate, par exemple. Bon, ça, c'est extrêmement limité. Pour le reste, autant que je sache, c'est à peu près à tout ce à quoi donne l'intranet local, donc l'intranet qui est très 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 développé. Il y a énormément de choses qui sont à destination intérieure. Ce n'est pas Internet, et Internet c'est réservé à une part encore très très limitée de la population, mais qui s'élargit assez vite. C'est-à-dire que tous ceux qui aujourd'hui créent des entreprises qu'on appelle autonomes, et en général, en gros avec des capitaux étrangers, et qui ont le droit d'aller s'installer en Chine ou à Vladivostok sans passeport ni visa, aujourd'hui, Ça change de la période des réfugiés, évidemment. Ces gens-là ont accès à Internet et, de ce que je sais, moi, sans entrer dans les détails, ont plusieurs adresses.
Il y a des applications pirates aussi qui permettent de visionner des vidéos, notamment.
Je pense qu'il y a des VPN comme partout. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des pour les gens normaux, et ce qu'il y a, notamment dans les régions du Nord, de la Corée du Nord, il y a des brokers. Donc, il y a des gens qui sont des Chinois, qui ont plusieurs téléphones, et qui permettent de mettre en contact un téléphone nord-coréen qui, en principe, n'a pas le droit de téléphoner à l'étranger, avec un téléphone chinois qui peut se connecter au réseau chinois, qui lui ensuite va se connecter au réseau international, qui permet à des Coréens du Sud et des Coréens du Nord de se téléphoner directement. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, notamment en Corée du Sud, toute une série de sites d'information extrêmement bien faits, qui fait par des réfugiés nord-coréens ou par des Coréens du Sud qui s'intéressent beaucoup à ça et qui suivent en détail toute une série de choses que les Coréens discutent entre eux et qui ne sont pas celles de la voie officielle.
Quelles sont les conséquences des sanctions sur la vie quotidienne des Coréens du Nord ?
Elles ont d'abord été épouvantables, puisque chacun réglera son problème moral avec lui-même, mais la plupart des sanctions sont tombées au moment de la famine. Bon, bravo. Donc ça a été colossal, d'où des, je ne sais pas combien, des centaines de milliers de morts. Il y a des chiffres qui sortent dans tous les sens. Ça n'a aucun intérêt et c'est vraiment compter
donc
des cadavres.
Donc ça, c'est entre le milieu des années 90 et...
94-2000. Donc c'est un peu plus... ça, c'est les chiffres officiels nord-coréens, voilà, qui sont plus larges que les chiffres étrangers.
Absolument. Absolument. La famine vue de Corée du Nord est plus grave que ce qu'on en a raconté de l'étranger. Et aujourd'hui, on commence à en parler. Il y a des émissions dessus. Bon, alors, avec les explications locales, puisqu'il faut au contraire prendre en main le discours sur la famine.
Et sur les conséquences des sanctions aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, c'est... Bon, il y a des sanctions extrêmement visibles sur tout ce qui est informatique, énergie. La Corée du Nord peut pas faire voler ses avions comme elle le veut. Il y a
matières premières, etc. Exportation de charbon.
Matières premières. Après, il y a la zone grise, c'est-à-dire on fait en Chine des tas de choses que on doit pas trop faire, avec un système qui est assez bien développé, c'est-à-dire l'ouverture de boîtes nord-coréennes en Chine qui font des choses marquées Made in China. Il y a beaucoup d'entreprises aussi chinoises qui font du Made in China en Corée du Nord. Donc il y a un discours à double détente. Et puis il y a le contournement officiel, absolu, délibéré par les Chinois et les Russes, par des Chinois et des Russes, de ces sanctions. L'ouverture, il y a très peu de temps, d'une ligne maritime touriste et marchandise entre Vladivostok et le grand port de Chongqing, qui contourne au moins 300 interdictions de l'ONU. Ça dérange personne sur place.
Alors, vous avez filmé dans une usine de chaussures de sport qui fabrique des baskets qui s'appellent des baskets Adidas, hein, si je ne me trompe pas, entre autres.
Après avoir inspecté notre usine, le maréchal respecté nous a envoyé 142 paires de chaussures modèles de l'étranger. Il nous a dit de les exposer sur notre lieu de travail à côté des nôtres quand elles sont mal faites. Comme ça, les techniciens et les employés les observent et les comparent aux nôtres, ce qui permet d'élever la qualité de nos chaussures à un niveau mondial.
La productivité en Corée du Nord, c'est quoi ? Le temps de travail, la capacité de performance, on a beaucoup de mal à l'évaluer, nous.
Alors, je ne peux pas vous dire, dans cette usine de chaussures, je n'ai pas été subjugué par, par la vitesse du passage des chaussures ni des ouvriers. Ils avaient d'avoir le temps de faire des Adidas avec trois bandes quand même, mais, de s'inspirer des meilleurs modèles, puisque j'ai vu aussi dans les modèles, les 142 qui ont été offerts, il y avait des coqs sportifs, des Nike, etc. Donc, mais la productivité ne me paraissait pas dingue. Après, je ne peux pas vous dire, je pense que l'offre et la demande est encore... c'est officiellement... c'est-à-dire que c'est parmi les grands changements de l'économie nord-coréenne, c'est que jusqu'à jusqu'à 94, en gros, c'était une économie qui était totalement dirigée et l'effondrement partiel de l'État et de l'économie avec la famine a fait que le marché a été réinventé par la base. Et qu'aujourd'hui, eh ben, de plus en plus de choses sont des choses autonomes, de marché. Il commence à y avoir de la concurrence, d'où l'intérêt d'avoir de la mode, d'avoir des choses qui plaisent, d'où l'idée de ces chaussures offertes par le grand leader, 142 paires, je rappelle, pour que ça crée autre chose que les modèles anciens qui étaient, disons, moins sexy.
Vous restez...
Jusqu'à il y a 10 ans, la question ne se posait même pas, c'est-à-dire que les usines ne fonctionnaient plus. Il n'y avait plus de matières premières. Et elles avaient été désossées pour aller faire du troc en Chine. Donc ça ne risquait pas de marcher. Ensuite, ça commence à rouvrir, mais la Corée, se trouvant en queue de liste du développement, elle s'est assez bien débrouillée, elle se débrouille assez bien pour créer des usines clés en main. C'est-à-dire ultra, ultra informatisé. Il y a une grande usine de bière tout près de Pyongyang où j'ai vu 3 personnes travailler.
Qui sont fournies comment, clés en main, par qui ?
On s'arrange. Alors, ça peut être des usines allemandes. Maintenant, il y a pas mal d'accords avec les Suisses pour les usines pharmaceutiques, etc. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux à chaque fois. Bon. Ou alors, je ne le dirai
alors,
pas.
Vous restez avec nous. Il faut bien sûr qu'on parle de l'agriculture. Il faut qu'on dise aussi un mot de l'éducation. Oui. Je voudrais quand même faire découvrir à nos auditeurs Moranbong Band, Dash to the Future. On peut passer ça dans un mariage, Patrick Morus ?
Et comment, karaoké à tous les étages, et dans quantité de restaurants, en particulier les restaurants modernes, mais ça se fait aussi au bord de la mer, ce qu'on montre dans le film. Très souvent, les serveuses terminent le repas en jeu courte avec un micro et se mettent à chanter, et la foule chante si elle veut.
Alors vous avez filmé une scène incroyable de sport. On fait beaucoup de sport dans le système éducatif, on chante, on étudie la vie des grands leaders. Il y a une scène de tir à la corde entre deux équipes scolaires qui s'affrontent, où il faut évidemment arriver à tirer la corde de son côté, avec un soldat américain en bois, statue en bois au milieu. C'est assez surréaliste.
Je vais une longue histoire extrêmement courte. C'est un de nos voyages où nous allions avec d'autres artistes et tout. Et il y avait dans notre groupe une romancière bulgaro-américaine qui s'appelle Velina Minkov et qui, il y a 30 ans, avait séjourné à l'époque du bloc socialiste avec d'autres enfants derrière le bureau de mur, avait séjourné. Ici, à Namwon, à Wonsan. Et elle avait voulu absolument revoir cet endroit 30 ans après, et du coup, on l'avait mis au programme, et elle le raconte dans un bouquin qui s'appelle Le Grand Leader doit venir nous voir, où elle raconte son séjour d'il y a 30 ans, mais vu d'aujourd'hui. Et du coup, on s'est retrouvé là avec sa mémoire à elle, ce que je savais du coin et ce que nos accompagnateurs nous disaient. Et en fait, c'était les régionaux de l'étape, c'est-à-dire les responsables de ce camp, qui nous racontaient le plus de craques, qui nous racontaient une vie complètement irréelle. Il se trouve simplement que nous, on avait les photos d'il y a 30 ans et que c'était difficile de nous montrer autre chose. À ceci près qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des enfants nord-coréens, il n'y a plus de visiteurs étrangers, il paraît que les Chinois vont revenir. Et donc, c'est une colonie de vacances très politisé des enfants nord-coréens. Je ne parierais pas que l'Américain y est encore aujourd'hui.
Il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même qu'on dise un mot sur l'agriculture. On a l'impression dans ce que vous filmez que l'agriculture n'a pas tellement progressé. Vous le dites d'ailleurs dans le documentaire, Pierre-Olivier François. On voit très peu de tracteurs.
Il y a très peu de tracteurs.
Est-ce que ça veut dire que l'insuffisance alimentaire, en tout cas l'autosuffisance alimentaire de la Corée du Nord, c'est pas pour demain?
Ah non, c'est pas du tout pour demain. Et puis ce sera probablement pour jamais.
Parce qu'ils
le disent eux-mêmes.
Dans un pays à 80% agricole en même temps.
Oui, mais il y a un pays à
84%
agricole avec 20% de terres cultivables. Donc ça
parce
fait 80%
reste, c'est
de
la montagne.
Ouais. Donc non. Ils le disent eux-mêmes. Il leur faut 8 millions de tonnes par an pour être autosuffisants. Ils en produisent, quand ça va bien, 5,5. Et là, ça va mal. Donc il y en a moins. Donc ce qui fait qu'ils ont demandé officiellement au Programme alimentaire mondial, comme ils le font régulièrement, de leur fournir de l'aide. Alors ils l'ont fait juste avant le sommet avec Trump. Donc tout le monde a dit ça fait partie des éléments de négociation avec Trump. Le sommet s'est plus ou moins bien passé. Il se trouve que malgré tout, les demandes en aide alimentaire restent présentes. Donc non, la Corée du Nord ne s'en sortira pas d'un point de vue agricole, même si elle a plus d'engrais un de ces jours, parce que la Corée du Nord lui fournirait si jamais les sanctions sont levées. Donc vous voyez, c'est compliqué.
Le Sud non plus. Hein. Le Sud a beaucoup plus de plaines, mais il n'est pas autosuffisant. Il est assez riche pour acheter. Mais c'est le terrain nord-coréen, nord et sud-coréen, avec l'explosion de la population qu'il y a aujourd'hui. Il y a plus de Coréens que de Français, sur la moitié du territoire.
Vous montrez bien, en tout cas, ce pays hermétique, figé, puis en même temps qui change plus vite qu'on ne croit de l'extérieur. On vous sent complètement quand même sous le charme, tous les deux, Patrick Maurus. Alors, vous le disiez, vous avez un enfant coréen, c'est un enfant sud-coréen.
Au sud, oui.
Vous avez des attaches très fortes, vous parlez coréen couramment. Pierre-Olivier François, vous aussi, on vous sent quand même totalement attaché à ce pays ?
Non, je trouve que c'est un endroit absolument passionnant pour travailler en tant que journaliste. C'est-à-dire que si vous voulez apporter des informations nouvelles, ce qui fait partie de notre travail, c'est un bon endroit. Parce que c'est un endroit pétri d'idéologie. L'idéologie nord-coréenne, c'est facile. Vous pouvez dire qu'on est fasciné. Non, c'est fascinant. Par contre, je crois que ni l'un, ni Patrick, ni moi n'avons d'affection extrêmement forte pour le mode de fonctionnement de ce régime. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un pays qui permet de raconter des histoires, qui permet de comprendre des choses complexes dans un endroit extrêmement complexe. C'est plein d'idéologies. Moi, ce qui m'intéresse depuis 20 ans que je travaille sur ce sujet, c'est d'enlever les couches d'idéologie nord-coréenne, mais aussi américaine, occidentale, sud-coréenne, japonaise, chinoise ou russe.
C'est ce dont on a l'impression dans le docu. Est-ce qu'il faut rééduquer les occidentaux sur la Corée du Nord ou pas ?
Regardons, réfléchissons et du coup, et il y a aujourd'hui beaucoup plus d'informations sur la Corée du Nord qui existent et qui sont accessibles qu'il n'y avait il y a 15 ou 20 ans. Et même parfois, on peut tenter d'y aller. Après, ça devient compliqué sur place, mais ça vaut le déplacement.
Vous reviendrez pour le prochain film.
Avec plaisir.
Que vous préparez. Merci à tous les deux, Patrick Maurus, Pierre-Olivier François. Pyongyang s'amuse, disponible sur le site Arte Vidéo. Merci d'être passé par le studio de 7 milliards de voisins.
Merci à vous.
Merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions, sur les réseaux sociaux, sur le site RFI.fr. Demain, 7 milliards de voisins. Travail en famille, comment entretenir de meilleures relations avec son entourage et désamorcer les conflits. Bon, ça marche pas sur le point de vue diplomatique, mais pour la vie quotidienne, ça peut servir. On est beaucoup dans le développement personnel aujourd'hui avec des spécialistes qui se penchent sur ces questions. Et bien évidemment, vous pourrez nous appeler si vous entretenez de mauvaises relations avec votre entourage. 33 1 84 22 71 71. À demain les voisins et les voisines.